D'autant plus que tout est codifié dans l'iconographie byzantine, tout a un sens, on peut changer des choses à la seule condition d'avoir, entre guillemets, une révélation. La plupart du temps, les maîtres nous disent, avant d'avoir une révélation, je pense qu'il va falloir que tu étudies et que tu comprennes tout ce langage. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, qu'on commence à avancer dans l'iconographie, on se rend compte que plus on comprend, moins on a envie d'innover. Je me conforme à l'enseignement qui m'a été transmis. Et surtout que, pour ce qui est de là, en plus de la symbolique des couleurs, on a là affaire à quelque chose d'extrêmement, on pourrait presque dire, logique, qui se confond avec l'ordre des choses. La symbolique des couleurs est en rapport vraiment avec les éléments de la nature. Le rouge, par exemple, va avoir une intensité, une vibration qui sera la même pour tout le monde. Sa vibration, ce qu'elle signifie, ne changera pas d'une civilisation à une autre. Et pour la petite parenthèse, j'ai pris le rouge parce qu'il est le symbole de l'amour divin, mais il est aussi le symbole de la haine et du meurtre. Tout symbole a un sens positif et un sens négatif. À chacun de le comprendre et d'essayer, évidemment, d'aller vers son sens positif.
Alors, lors de votre présentation, vous aviez dit qu'avant, vous étudiez, ou vous, en tout cas, vous touchiez à l'art contemporain et vous n'avez pas trouvé de réponse. Que cherchiez-vous et qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'iconographie ?
J'étais quand même très jeune à l'époque. Et j'étais un artiste contemporain. Donc, je pratiquais l'art contemporain, l'art abstrait, et je faisais plutôt une recherche de la symbolique traditionnelle au travers de cet art contemporain. Je me suis trouvé très très vite dans un cul-de-sac. Depuis la Renaissance, d'ailleurs c'est pas nouveau, l'art contemporain est passé d'un mode spirituel, symbolique et stylistique à une approche beaucoup plus émotionnelle, subjective et psychique. Plus on avance d'ailleurs dans le temps, et plus on s'aperçoit que plus l'art contemporain, par exemple, pour être plus précis dans notre époque, ne peut pas aller au-delà du psychique. Or, s'il y a bien quelque chose qui va à l'encontre de la démarche spirituelle, c'est bien... Justement, l'ordre psychique, c'est tout le contraire d'une approche spirituelle où on va plutôt essayer de s'élever, de s'affiner et d'aller vers le spirituel, vers l'esprit.
Alors, on associe souvent l'iconographie à un art du XVIe siècle, en tout cas d'antan, on va dire. S'agit-il d'un art dépassé ?
On n'a pas avec l'iconographie affaire à un art au sens contemporain du terme, mais on a plutôt affaire à une discipline spirituelle. Non, on considère qu'il y a une tradition qui nous est transmise, qu'on doit comprendre et ensuite qu'on doit transmettre. Les maîtres du XVIe siècle, XVIIe siècle, pour parler des deux plus grands, donc Théophane le Grec et André Roubloff, on pourrait presque dire qu'ils ont eu des révélations. Beaucoup de leurs icônes sont devenues des archétypes. Il serait très difficile d'essayer de bouleverser ces archétypes qui sont maintenant les modèles parmi les modèles, parce qu'ils ont un contenu qui est vraiment indiscutable, qu'on essaye de comprendre. Si vous prenez le cas de la Vierge de Vladimir, d'ailleurs qui n'est pas russe mais grecque, elle a une structure qui vraiment nous apprend énormément au niveau de notre quête. Pour être plus précis d'ailleurs, ce que je voudrais dire avant tout, c'est que l'iconographie, c'est une voie spirituelle à part entière. C'est une démarche spirituelle. Il y a tout un cursus qui est très très précis. On ne fait pas n'importe quoi au début de son étude. Et puis, lorsqu'on a acquis une maîtrise relative, on doit aller demander la bénédiction de son évêque pour pouvoir poursuivre sa quête. Une étape suivante, ou lorsqu'on a acquis un autre degré de maîtrise, on doit réaliser l'icône maîtresse. Vous savez que les compagnons parlent de chef-d'œuvre. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à cette étape-là, on doit réaliser le chef-d'œuvre, en quelque sorte. Moi, je préfère parler de l'icône de la maîtrise. C'est une icône très très particulière et très précise, c'est la Transfiguration, qui est une icône de passage par excellence.
Lorsque vous créez des icônes, est-ce que c'est accompagné de réflexions sur des textes ? En quoi est-ce que c'est une spiritualité ?
Quand je parle de spiritualité, je dirais plutôt une quête spirituelle. Ce n'est pas une spiritualité à part entière, c'est une quête spirituelle. Pour prendre un tout petit exemple, quand on passe sa vie à peindre le Christ et la Vierge, ça ne peut pas être neutre. Il y a nécessairement une modification, si évidemment on le fait sérieusement. Mais lorsqu'on est conscient que toute sa vie on va représenter le Christ, il y a une relation d'ailleurs qui s'installe avec une discipline qui s'appelle les icasmes, très particulière, qui est une répétition perpétuelle du nom divin. C'est le principe même de l'hésychasme qui est lié aussi au souffle de l'homme. Mais là, en l'occurrence, cette répétition du visage du Christ et celui de la Vierge, principalement, il n'y a pas que celui-là, mais on peut dire que ce sont les deux icônes principales, c'est la même chose, c'est une répétition perpétuelle qui nécessairement modifie notre comportement, notre regard. C'est d'ailleurs tellement affirmé que dans l'orthodoxie, l'iconographie est considérée comme un office. C'est une théologie silencieuse, on pourrait presque dire.
Justement, est-ce qu'une icône, c'est une catéchèse ?
Voilà, exactement, vous l'avez dit. Je crois qu'on ne peut pas mieux imaginer comme catéchèse, surtout pour... Vous savez qu'à certaines époques, la tradition était orale, donc les gens ne lisaient pas nécessairement. Et le regard, l'image en elle-même, était porteuse. D'ailleurs, il y a une relation immédiate entre la parabole, qui est vraiment la base de l'enseignement du Christ, et l'image. Il y a vraiment une relation, si vous prenez toutes les paraboles du Christ, vous verrez que ce sont des images. On a affaire à la même démarche en iconographie. Il suffit de regarder. Je crois d'ailleurs que Léonard de Vinci avait fait une réflexion, mais il disait que le théologien écrit des sommes pour essayer de faire comprendre ce qu'est la Vierge Marie, alors que le peintre va la représenter et tout le monde la comprend.
Justement, quel message peuvent faire passer les icônes au XXIe siècle ?
Ou surtout au XXIe siècle, où on est vraiment le siècle de la représentation de l'image, où on est sursaturé de représentations. Ce qui m'a moins frappé, c'est que le seul fait que l'iconographe respecte la tradition et transmette depuis maintenant un millénaire et demi, on pourrait dire, ces représentations codifiées, il transmet ce message. On est plus proche, d'une certaine manière, de l'enseignement du Christ, et on s'aperçoit que cet enseignement, il est toujours contemporain. Aime ton prochain comme toi-même, je pense que c'est un message qui sera toujours bienvenu et compréhensible, et en tout cas, un message qu'on doit transmettre à nos enfants, nos petits-enfants.